ne vous tente pas trop du côté de l'escapade. Nous allons commencer donc à l'heure. Est-ce que M. Stein voudrait nous conduire dans la prière? Ce matin, nous en sommes encore au troisième chapitre de notre survol et nous considérons le modèle réformé quant à la fonction sacramentelle. J'ai souligné que le problème de la théologie réformée, c'est de rendre compte de la place qu'occupe le sacrement s'il n'est que parole visible, puisqu'il y a déjà, et qui remplit parfaitement son office, la parole audible, la parole de la prédication, on pourrait aussi dire la parole visible d'ailleurs. Le langage est fait pour la communication verbale, et il est d'une souplesse incomparable à cet égard. Donc même s'il y a quelques avantages à une présentation de mode de signe symbolique, ce ne peut jamais être avec la même efficacité qu'au plan du langage proprement dit. Et du coup, les sacrements ne peuvent apparaître que comme un appendice tout à fait minuscule par rapport à la prédication. Les théologiens réformés ont lutté avec ce problème, comme je l'ai dit. En général, ils mettent en valeur l'avantage d'une présentation visuelle et qui engage le corps, mais ils reconnaissent, certains d'entre eux en tout cas, eux-mêmes, que ce n'est pas un argument que l'on trouve mis en avant dans l'Écriture elle-même et que c'est quand même assez faible de se tenir en position. C'est tout spécialement le cas du théologien hollandais, réformé hollandais Berkauer, dont l'ouvrage sur les sacrements, que je cite dans ma bibliographie, est l'un des principaux. Ce qui caractérise Berkauer, c'est une grande finesse et parfois, je dirais, habileté face aux difficultés. Là où d'autres docteurs réformés affirment péremptoirement, ont l'air de ne pas voir la difficulté, Berkauer, qui est beaucoup plus malin, laisse bien entendre qu'il l'a perçu. Il ruse avec. À mon avis, il ne présente pas de solution satisfaisante, dans bien des cas en tout cas, dans bien des cas pour le moins, mais il montre une sensibilité beaucoup plus vive que d'autres. Et il rejette certains arguments, donc il voit bien qu'ils ne tiennent pas. Et celui que je viens d'évoquer, sur l'avantage d'une présentation visuelle, forme qui s'apparenterait un peu au mime, symbolique, il voit bien que ça ne suffit pas à fonder la spécificité du rôle du sacrement. Il le dit, il a sans doute été d'ailleurs influencé par la critique du théologien Émile Brunner, qui n'était pas évangélique, mais qui était de confession réformée, et qui a écrit un livre, Le malentendu de l'Église, où il attaque précisément cet argument que l'on trouve chez Calvin et assez souvent dans la théologie réformée. Berkauer a lu Brunner et il est obligé de reconnaître que Brunner a raison sur ce point précis. Un autre schéma que certains ont essayé de mettre en œuvre, c'est le suivant. La prédication, celle qui se donne de la chair, s'adresse à tous, collectivement. Mais le sacrement aurait une application individuelle et dirait à chacun, si tu crois, tu reçois la grâce de la purification, de la régénération, de la communion avec le Christ, etc. spécificité du sacrement serait la précision de l'adresse individuelle. C'est développé par divers théologiens. Il me semble que ce n'est pas non plus très satisfaisant. C'est très arbitrairement dit. La prédication s'adresse aussi à chacun. Et il y a des modes de prédication, d'ailleurs, qui sont purement individuels aussi. On peut dire que la cure d'âme est une prédication individualisée. Il n'y a pas de raison de présenter la prédication néo-testamentaire comme simplement adressée à un groupe comme une masse sans que les individus y soient distingués. Et l'aspect communautaire des sacrements est très marqué, au contraire, en particulier pour la scène. Donc, c'est assez arbitrairement que l'on propose de distinguer ainsi la parole et le sacrement. En fait, il ne semble pas qu'il y ait de réponse vraiment satisfaisante. Le CERF a une formule tout à fait indéfendable. Il dit la différence n'est pas qualitative, mais quantitative. Ce qui n'est pas digne d'un théologien comme lui. Une autre difficulté, ça c'est mon point numéro 2, dans la construction théologique que veut édifier le théologien réformé, c'est que la fonction de signe parole visible qui offre la grâce, laquelle grâce ne sera effectivement donnée par Dieu que si elle rencontre la foi, cette fonction de signe parole visible ne peut pas expliquer les restrictions aux personnes qui sont les sujets des sacrements. La parole qui offre la grâce, si tu crois, tu seras sauvé, elle s'adresse à tous, quelles que soient les dispositions des uns ou des autres. C'est précisément ce qui caractérise la parole missionnaire dans le Nouveau Testament. C'est d'abord aux incroyants que cela est dit. Si le sacrement doit être conçu comme simplement un autre mode symbolico-visible de la prédication, alors il n'y a aucune raison de ne pas baptiser n'importe quel incroyant, si je l'espère. On lui adresse la parole. Si tu crois, tu obtiendras la purification de tes péchés. Et la même chose pour l'admission à la scène. Or, les réformés, ils y sont contraints par le Nouveau Testament, ne sont pas du tout prêts à baptiser n'importe qui. Ils baptisent les petits-enfants, en principe les petits-enfants des fidèles, et s'il s'agit d'adultes, seulement ceux qui confessent leur foi. Et ils savent bien que pour l'admission à la scène, il faut aussi lancer des avertissements que ce n'est pas justement n'importe qui. Et qu'il y a un grave danger si l'incroyant sans discerner le corps du Seigneur. Avec la notion de sacrement comme parole visible, ils n'ont aucune raison théologique pour fonder l'exclusion que, selon le Nouveau Testament, ils sont bien obligés de pratiquer et qu'ils pratiquent à l'égard des non-croyants pour le baptême adulte et pour la scène. Et de nouveau, ils ne peuvent pas rendre compte des données du Nouveau Testament, et Berkauer a vu cette difficulté et il dit qu'il n'y a pas de solution. Expressément, Berkauer reconnaît que là, il n'a pas de solution. Ce qui est très intéressant. Donc c'est notre faiblesse de la construction doctrinale comme telle. Pour essayer de remédier à cette faiblesse, surtout à la première que j'ai évoquée, la place des sacrements ne se comprend pas s'ils ne sont que paroles visibles, la théologie réformée a ajouté, comme vous l'ai dit, deux autres éléments de discours. D'une part, l'affirmation que le sacrement est un sceau en même temps qu'il est un signe, c'est-à-dire qu'il confirme. C'est le verbe confirmer qui est généralement employé. Et d'autre part, l'affirmation fréquemment rencontrée que c'est Dieu qui est à l'œuvre, que le sacrement est une œuvre divine, ce qui lui donne solennité, relief, qui fait que la gratitude
fidèle, une attitude de crainte, de respect frissonnant devant cette action spéciale que Dieu opérerait lorsque le sacrement est administré. Alors que dire de cette double addition? Mon verdict général, tenter d'expliciter, c'est que cette addition recèle beaucoup d'ambiguïté. Dès qu'on cherche à savoir exactement ce que veulent dire les théologiens réformés, on s'aperçoit de leur embarras, et mon interprétation de cet embarras au moins serait que, sentant bien la faiblesse du reste de leur construction, ils essaient de la dissimuler en ajoutant ces thèmes, mais ils ne peuvent pas vraiment donner à ces thèmes assez de consistance pour remédier à la faiblesse du point numéro 1. Alors, je t'explique davantage maintenant ce que je dis là, qui est un jugement un petit peu sévère, hein, je n'en doute pas, mais je ne prends pas non plus le temps de toutes les nuances et du langage diplomatique. J'espère ne choquer personne. Il faut que j'aille vite. En ce qui concerne l'idée du sacrement comme sceau, il y a, me semble-t-il, trois difficultés évidentes que l'on peut repérer quand on lit les théologiens réformés. La première concerne l'objet du scellement, de l'acte de sceller. Qu'est-ce qui est scellé? En fait, les théologiens réformés varient sur ce point. Ils varient, le plus souvent chez Calvin en tout cas, ce sont les promesses de l'Alliance. Et je rappelle son image des cachets associés à une lettre, à un contrat. Donc, ce sont les promesses. Mais, parfois aussi, il nous est dit, c'est le croyant qui est scellé. Parfois, c'est sa foi. Parfois, c'est sa justice. Vous avez, en fait, des expressions assez différentes. Il faut bien savoir ce qui est scellé. Et il y a eu une controverse entre théologiens réformés aux Pays-Bas. Sur tous les points où une controverse est possible, vous êtes sûr qu'aux Pays-Bas, il y a eu une controverse. Mais il y en a une là-dessus. Et oui, parce que précisément, l'objet précis de l'opération d'apposition de ce sceau n'est pas très clair dans le discours. Deuxième difficulté, la base biblique. Calvin ne cite qu'un texte. Pour des théologiens du sola scriptura, c'est quand même un peu significatif. Calvin ne cite que Romains 4. La circoncision a été le sceau de la justice obtenue par la foi, dit Paul d'Abraham. Pierre Marcel en rajoute deux autres. De Corinthiens 1 et Éphésiens 1. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et c'est tout. Quand même un petit peu violent. On nous parle des sacrements comme sceaux en disant c'est vraiment un point décisif. Et il n'y a aucun texte biblique parlant des sacrements qui puisse être cité. Où le sacrement soit désigné comme un sceau, présenté comme un sceau. Les deux passages que Calvin ne cite pas, ne cite Pierre Marcel, il n'y a aucune allusion au baptême, à moins de l'imposer, de l'introduire dans le texte. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. C'est la personne du croyant qui est scellée du Saint-Esprit, ayant reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est tout à fait arbitrairement qu'on leur apporterait ça au baptême. Donc, ces textes ne peuvent pas être cités, Calvin d'ailleurs ne les a pas cités. Mais, Romains 4, 4-11, c'est la circoncision, c'est pas le baptême. Il faut auparavant faire l'équation circoncision égale baptême ou baptême égale circoncision. Ce qui est loin d'être fait de manière satisfaisante. Et puis non seulement ça, Paul ne dit pas la circoncision en général. Dans l'Ancien Testament, dans le système établi par Dieu, dans l'Alliance, était le sceau de la justice obtenue par la foi. Il ne dit pas ça de tout enfant israélite qui naissait et qui était circoncis. Il dit ça très spécialement d'Abraham, dans son cas particulier, en arguant du fait que la circoncision est intervenue au chapitre 17 de la Genèse, alors que c'est déjà au chapitre 15 qu'Abraham a reçu la justice par la foi seule. Paul manie cet argument pour montrer que les œuvres ne sont pas nécessaires pour obtenir la justice de Dieu. Les œuvres, la circoncision. Puisqu'Abraham, avant d'avoir été circoncis, dès le chapitre 15, a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et c'est seulement après qu'il a reçu la circoncision qui, dans son cas, a été le sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Donc, le raisonnement de Paul concerne la biographie particulière d'Abraham. Ce n'est pas une formulation qui définisse le rôle de la circoncision en général. Donc, vous voyez quel est l'appui biblique pour la thèse. Vraiment, rien de consistant. Alors, on peut parfois affirmer des choses qui n'ont pas d'appui biblique explicite et précis, pourvu qu'il y ait d'autres raisons suffisantes pour le faire. Des raisons donc bibliques qui s'appliquent de façon indirecte. Mais cela non plus, je ne le trouve pas dans la thèse réformée. Comment est-ce que le baptême et la scène sont censés sceller les promesses de Dieu, pour prendre la première façon de formuler les choses qu'on trouve chez Calvin? Les cachets et signatures qui confirment un document qui est scellé, là on comprend très bien comment ils jouent leur rôle de confirmation. Seul celui qui fait la promesse a le cachet à mettre. Et sa signature ne peut pas être imitée. Donc s'il y a le cachet, on sait que c'est lui, et donc c'est confirmé. C'est de cette manière que ça fonctionne. Mais dans le cas du baptême et de la scène, en quoi est-ce que le fait que quelqu'un, un monsieur X a baptisé un monsieur Y, confirme la promesse de Dieu? En quoi devient-il évident, y a-t-il une authentification de l'origine divine de la promesse en cause? Il y a une répétition de la promesse de Dieu, éventuellement par la bouche de celui qui a pratiqué ce baptême, mais ça ne confirme pas, ça n'apporte pas un élément d'authentification, contrairement à ce que font les signatures, ou les cachets, ou encore les cérémonies comme celle qu'évoque aussi Calvin. Les anciens, lorsqu'ils concluaient une alliance, faisaient une cérémonie, parce que c'est le fait d'être présent dans cette cérémonie qui va rester dans les mémoires, d'avoir été visiblement engagé aux yeux de tout le peuple dans ce moment solennel qui a donné du poids à l'engagement de l'alliance. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Dieu n'est pas visiblement présent lorsque le baptême est appliqué à cette personne. S'il est présent, c'est comme objet de la foi, c'est pas visible, donc c'est pas une garantie. L'idée d'une confirmation, d'une garantie, d'un sceau en quelque sorte avec cette fonction, elle est présente dans la Bible quant aux promesses de Dieu. Le Seigneur confirmait par ses miracles la parole des apôtres. Oui, quand il y a des miracles, ça c'est un signe d'authentification. C'est Dieu seul qui peut le faire. De même que celui qui a le cachet peut seul mettre son cachet. À ce moment-là, c'est un signe d'authentification qui confirme. Et la pensée est dans la Bible, Marc 16, la finale ajoutée à l'évangile de Marc, ou Hébreux 2. Mais le baptême et la scène ne sont pas des miracles. Il n'y a rien qui authentifie, donc comment fonctionne vraiment comme à la manière d'un sceau le baptême et la scène? Moi je ne trouve, en tout cas je n'ai rien trouvé chez les docteurs réformés qui me le fassent comprendre. Ils l'affirment, mais il me semble que sous l'analyse, cela se désagrège. Pas de base biblique et une difficulté pareille pour comprendre ce qui peut être efficace dans cette doctrine, je trouve que ce sont vraiment des faiblesses qui condamnent la thèse. L'autre thème est lui aussi, à mon avis, mêlé de beaucoup d'ambiguïté. Nous lisons constamment chez les docteurs réformés ou dans des confessions de foi que c'est Dieu qui baptise. Je vais vais retrouver les formules que j'ai relevées à ce propos dans beaucoup de textes. Il nous est dit que Dieu nous représente au vif ses promesses, que c'est lui qui nous donne dans le baptême ou dans la scène ce qu'il y figure lui-même. Je cherche encore mes citations. Dieu est le sujet des verbes employés pour décrire ce qui se passe. C'est Dieu qui testifie, qui confirme, qui représente, qui scelle. Chez Calvin, par exemple, au chapitre 14, 15, 17 de l'institution chrétienne. Donc c'est Dieu qui a l'air d'agir, Pierre Marcel se conforte dans ce sens, mais en même temps, c'est là qu'est l'ambiguïté, ils reconnaissent que c'est une œuvre humaine. Ils reconnaissent que baptême et scène sont des œuvres que le Christ a commandé à ses disciples de faire. Et ils savent fort bien, Auguste de Serres fait dans ce cas, utiliser l'argument contre la conception catholique. Si le baptême et la scène sont nécessaires, en plus de l'œuvre de Christ, comme une œuvre pour appliquer l'œuvre du Christ, ça veut dire que la foi, qui est simplement en réception, ne suffit pas. Qu'il y a une œuvre humaine qui doit se rajouter. Or, cela est exclu par les grandes affirmations de l'apôtre Paul, qui excluent les œuvres pour la communication de la grâce. Et d'autres ont bien vu que la conception causative s'oppose au message de la justification par la foi seule. Parce que ce sont des œuvres humaines. Mais alors, si ce sont des œuvres humaines, au nom de quoi utilise-t-on si souvent le nom de Dieu comme sujet des verbes ? Représenter, figurer, testifier, tout cela concerne l'opération même du rite. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui est ici pris comme sujet ? Le plus souvent, on ne nous donne aucune explication. Ce sont des formules qui s'enfilent les unes aux autres, plus ou moins ronflantes. Il y a quand même un document très important qui a le courage de préciser les choses. C'est la confession helvétique postérieure, la plus longue des confessions de foi, la plus fournie, c'est un véritable petit traité théologique du XVIe siècle, qui a été reçu très largement, pas seulement dans les églises réformées suisses, mais dans les autres pays, parce que c'était un si beau document. Elle a été reconnue par les églises réformées de France comme un document normatif. Or, cette confession helvétique postérieure discute le problème en cause dans son chapitre 19. Et je vous lis tout le passage. Quand les fidèles reçoivent les sacrements de la main des ministres, ils reconnaissent l'œuvre de Dieu en Isseux en tant qu'il les a institués. Par quoi ils les reçoivent comme de la main de Dieu sans que le vice du ministre les empêche. Et pourtant, cependant, en l'administration des sacrements, il faut mettre différence toute claire entre le ministre du Seigneur et le Seigneur même, et confesser que les choses des sacrements sont données par le Seigneur même, la grâce, les choses des sacrements, mais les symboles ou signes d'Isselle par le ministre du Seigneur. Là, c'est clair. En fait, les signes ou symboles, c'est-à-dire ce qu'on voit, la représentation qui est proposée en figure, c'est le ministre et c'est pas le Seigneur. C'est bien sûr sur l'ordre du Seigneur, mais c'est pas le Seigneur qui le fait. Le Seigneur donne la grâce parce qu'il est fidèle à sa promesse. S'il y a la foi, il donne la chose représentée par le sacrement. Mais, en toute rigueur de terme, ce n'est pas lui qui représente. Il a chargé les hommes de représenter sa grâce par l'usage de l'eau, par l'usage du pain et du vin. Mais lui, il donne ce qui est représenté. Ne pas confondre. Là, l'explication est claire. Et en fait, on trouvera chez Calvin au moins un passage où c'est à peu près clair aussi. Je crois pouvoir dire que quand on pose la question aux théologiens réformés, quand on le coince en quelque sorte, et qu'on lui dit, mais que voulez-vous dire exactement? Alors, il est obligé d'en venir à ce que dit la confession helvétique postérieure. Oui, en fait, ce n'est pas Dieu qui représente, c'est le ministre. Dieu donne la grâce, qui est représentée par le sacrement. Mais il ne faut pas confondre Dieu et le ministre quand même. Et il est l'auteur des sacrements dans ce sens qu'il les a institués. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui opère le sacrement. Au contraire, il les a institués parce qu'il a donné l'ordre à ses disciples de les accomplir. Il est leur auteur en tant qu'il les a institués. Alors ça veut dire qu'il n'est pas l'auteur de ce qui se fait au moment même. Quand on les presse de questions, quand on leur demande vraiment de dire exactement ce qu'ils sont prêts à défendre, alors c'est clair, c'est net. Mais à ce moment-là, toute la rhétorique de ces phrases où Dieu est le sujet, des verbes Dieu représente, Dieu tombe, on se rend compte que ce n'est pas un langage rigoureux. C'est pour cela que je dénonce l'ambiguïté. On peut dire, que Dieu, sans ambiguïté excessive en tout cas, que Dieu agit par le sacrement, parole visible, comme il agit par la prédication, parole audible, mais ce n'est pas Dieu qui prêche. Dieu parle, puisque c'est sa parole qui est transmise. Ce n'est pas lui qui prêche, qui apporte cette parole. De même, ce n'est pas Dieu qui représente ses promesses par l'opération du signe. Il s'en sert, s'il trouve la foi. Là, les choses deviennent claires. Alors, mon soupçon, qui est peut-être un soupçon excessif, c'est à vous d'en juger, c'est que si de si bons théologiens, parce que ce sont les meilleurs théologiens, moi je me suis mis à leur école, de si bons théologiens tombent en ambiguïté, emploient un langage qu'ils ne peuvent pas défendre en toute rigueur, quand on leur demande vraiment des explications, comme ici, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est qu'il s'agit de créer un petit brouillard parce qu'il y a une faiblesse à laquelle ils n'ont pas vraiment de remède, à laquelle ils ne veulent pas vraiment penser. Alors, pour eux-mêmes d'abord, c'est pour eux-mêmes et avant que ce soit pour d'autres. Il y a ce petit brouillard d'un langage exalté sur Dieu qui opère, Dieu qui agit. C'est me semble-t-il, là, l'ambiguïté, mais en prenant un recul de sang-froid, je dis que ce n'est pas vraiment satisfaisant comme construction théologique. Voilà de quelle manière je suis conduit à critiquer le modèle de la théologie de Calvin, la théologie réformée. Alors si ces deux modèles ne sont pas satisfaisants, qu'avons-nous à offrir comme troisième option? J'interprète, je dénomme, disons plutôt, le troisième modèle en l'appelant homologétique. J'ai forgé le terme. J'ai forgé même pour ce cours. Je ne l'avais pas employé jusqu'à présent. Je l'ai forgé sur l'analogie du mot apologétique. L'apologétique, c'est ce qui caractérise l'apologie, le discours de défense, le plaidoyer de défense en faveur du christianisme. Donc apologétique, d'abord un adjectif, dérive d'apologie ou apologia, apologetikos, apologia. Or, le Nouveau Testament emploie le mot d'homologia, la confession. Et je suggère donc d'en tirer un adjectif homologétique, comme on a tiré apologétique de apologia. Cela veut dire donc, où la notion de confession est la notion clé. Le troisième modèle voit la fonction sacramentelle premièrement et centralement dans l'acte de confession. Il ne s'agit pas de pensée confessionnelle, c'est-à-dire penser confession de foi, confession de péché aussi. C'est très lié au baptême dès sa préface avec Jean-Baptiste. Ils confessaient leur péché en se faisant baptiser au Jourdain. L'acte de confession est étroitement associé au baptême dès le temps de la préparation avec Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas seulement et même d'abord la confession des péchés, mais la confession de la foi que j'ai en vue lorsque je suggère de mettre au centre la notion de confession. Cela correspond à Romains 10. Pratiquement tous les commentateurs, et là je crois qu'on peut suivre, même si le mot baptême n'est pas employé, comprennent la parole de l'apôtre, c'est en confessant de la bouche qu'il sera sauvé, de la confession baptismale. Donc, le troisième modèle, suggérais-je, met l'acte de confession au centre. Comment arriver à cette notion? Une remarque assez générale peut nous introduire. Il y a un geste symbolique. Le bain ritualisé, le repas, qui n'a pas pour but unique et premier simplement de restaurer les forces physiques, c'est un geste symbolique donc qui est fait avec représentation de réalités qui ne sont pas immédiatement visibles, pardon des péchés comme fruit de la mort de Jésus-Christ, mort et union à lui, communion avec lui, communion avec les siens, les autres, dans la constitution d'un seul corps spirituel. Ces choses-là sont représentées symboliquement par les deux gestes ritualisés du baptême et de la scène. Or, qu'en est-il des gestes symboliques, significatifs symboliques, que l'on accomplit dans la vie courante, de manière très très générale, par rapport à la réalité qui est évoquée par leur signification symbolique? Je pense qu'on peut dire, en gros, qu'il y a deux usages principaux. Quand vous faites un geste symbolique, ça peut vouloir dire deux choses. Ou bien c'est une demande de la réalité qui est visée, ou bien c'est une affirmation quant à sa présence. Si je fais ça, ça veut aussi. Ou bien dire, j'ai soif, vous n'auriez pas un verre à me passer. C'est l'expression d'une demande. Ou bien ça veut dire, oh que c'est bon de boire, je suis content d'avoir assouvi ma soif. Je pense qu'on peut dire que de manière très générale, les signes symboliques dans la vie humaine ont l'une ou l'autre fonction. Exprimer soit la demande, soit la possession effective, mais dont on a envie de proclamer qu'elle est là. Alors, a priori, par rapport au baptême ou à la scène, ces deux manières de signifier peuvent être envisagées. Le baptême comme une forme de prière pour obtenir la régénération et la purification des péchés, la scène comme l'expression du désir d'être nourri de Dieu, ce serait concevable en soi comme fonction. Et en fait, dans l'interprétation de la ligne de Barthes, c'est au moins l'élément qui semble prédominer. Mais qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Il me semble que dans le Nouveau Testament, c'est plutôt la relation inverse que l'on observe. Dans tous les cas où on peut observer, il y a des cas où il y a juste la mention, baptême, fraction du pain, et on ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais dans tous les cas où on peut observer les choses, il me semble qu'on doit dire que le baptême et la scène sont des gestes symboliques qui interviennent pour des personnes en qui la réalité figurée est déjà présente. C'est ça qui est le point clé. Partout où on peut voir s'il en est ainsi ou non, dans le Nouveau Testament, ceux qui sont baptisés sont déjà croyants. C'est une démarche de foi que celle-même d'aller au baptême. Bien sûr, il y a des cas où la chose n'est pas précisée, mais elle n'est pas démentie pour autant. Partout où on peut observer ce qu'il en est, c'est là où la foi est déjà là. Or, d'après l'enseignement massif, abondamment répété du Nouveau Testament, la foi reçoit le salut, la foi seule et sainte reçoit le pardon des péchés, reçoit la grâce de la vie nouvelle, le changement intérieur, le Saint-Esprit est donné. Donc, s'il y a la foi, il y a déjà la réalité que le baptême représente. Et en ce qui concerne la Sainte Cène, alors on peut dire que c'est encore moins discutable. Ce sont des gens qui sont en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres, qui se réunissent pour célébrer la Cène ensemble. Donc la réalité de la communion qui est représentée par le repas, elle est là. Elle est là au préalable. Et si elle n'est pas là, que celui qui participe à la Cène, apparemment, il boit et mange un jugement contre lui-même. Donc, il me semble assez clair que dans le Nouveau Testament, la réalité figurée est présente, et donc il est assez spontanément naturel d'interpréter selon la deuxième grande possibilité pour les signes significatifs, pour les signes symboliques. Expression, manifestation, proclamation de la réalité qui est déjà présente et possédée. Et je pense qu'il n'y a aucun texte qui le conteste, et que c'est ce qui nous permet aussi d'interpréter un passage comme tout ce qui avait été baptisé en Jésus-Christ, vous avez revêtu le Christ. Je prends cela du baptême d'eau, vous avez été baptisé, certains ne veulent pas le faire, mais je crois quand même qu'il faut le faire. Texte de Galates 3. Si vous prenez ce verset selon les trois modèles, je pense qu'on peut commenter de la manière suivante. C'est un verset qui colle bien avec l'interprétation catholique. Pour le catholique, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, comme un effet de ce baptême, vous avez revêtu le Christ. Le baptême d'eau d'abord, il est la cause de la grâce, et du coup, le revêtement par le Christ est l'effet. Et donc, au terme du processus, les deux éléments extérieurs et intérieurs sont présents. Ça ne colle pas bien avec l'interprétation réformée. Parce que, dans l'interprétation réformée, il n'est pas vrai que tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu le Christ. Il y a, d'après la doctrine réformée elle-même, un bon nombre d'enfants qui ne sont pas des élus, qui ne seront jamais régénérés, qui n'ont pas revêtu le Christ, au sens spirituel, qui ont été baptisés. Et cela de manière valide. Ils appartiennent à l'Église visible, mais pas à l'Église invisible. À cause de l'hiatus qu'il y a dans la doctrine réformée entre l'Église visible et l'Église invisible, vous n'avez pas cette coïncidence. Vous tous, qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu le Christ. Non, il y a des gens qui ont été baptisés qui n'ont pas revêtu le Christ. Donc ça ne colle pas bien avec la doctrine réformée. Avec le modèle professant baptiste, au contraire, ça colle bien. Tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu le Christ. Mais l'ordre est inverse de celui de l'ordre catholique. C'est parce qu'ils avaient revêtu le Christ par la foi qu'ils ont été baptisés. Et c'est ce que Paul leur rappelle dans ce passage. La cause est du côté de l'œuvre spirituelle, et en quelque sorte c'est l'effet qu'a été leur baptême d'eau, comme expression de cette réalité que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu avaient suscité dans leur vie. Et Paul le rappelle en disant, vous avez été baptisés, ben c'est que vous aviez revêtu le Christ. Vous voyez ? Donc, la phrase se lit bien d'un point de vue catholique et d'un point de vue professant. Mais si on la lit d'un point de vue catholique, alors on a toutes les autres objections qui viennent du reste du Nouveau Testament. Alors que, avec le modèle professant, je pense qu'on n'a pas ces inconvénients-là. Alors vous remarquez que j'emploie les mots de manifestation, expression, viennent très souvent, par exemple chez Barthes ou chez Dunn, dans le livre que j'ai recommandé tout à l'heure sur le baptême, je pense que la notion d'expression peut être retenue pour la fonction sacramentelle par rapport à la réalité qui est figurée. Et cela correspond à la grande loi biblique de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je pense qu'on peut contraster la voix biblique comme une voie d'extériorisation face à la voix païenne, qui est une voie où on agit de l'extérieur, par des rites, par des mystères, par, avec l'espoir de changer l'intériorité. La voie biblique n'est pas de commencer par l'extérieur, mais d'agir par la parole dans l'intérieur du cœur et de faire que cela se manifeste. Donc la notion d'expression me semble correspondre à la notion biblique de l'homme qui est d'abord résumée par son cœur, qui doit être changé en son cœur. C'est là du cœur que procèdent les sources de la vie, comme dit le livre des Proverbes, mais qui doit ensuite exprimer dans sa conduite visible précisément la vie nouvelle qui lui a été implantée par la parole et l'esprit. Cependant, je suis venu à préférer à la notion d'expression celle de confession, qui me semble une notion plus riche et encore plus exacte pour ce qui se passe dans la fonction sacramentelle. Et c'est pour cela que j'ai forgé le mot homologétique pour notre leçon aujourd'hui. Quelle est la différence entre l'expression et la confession? Pensez donc à la confession de foi, confessant de sa bouche. La grande différence, c'est que l'expression, elle est en un sens libre. Chacun s'exprime. Alors que la confession se moule dans une forme qui est préétablie. Dans la confession de foi, je redis pour mon compte ce qui m'a été dit et enseigné par le Seigneur. Je dis oui et amen, et c'est là l'expression, il y a un élément d'expression, mais je dis oui et amen à ce qui a déjà été fixé, à une forme définie. Or, c'est précisément ce qui se passe dans le sacrement. Le sacrement, ce n'est pas n'importe quel témoignage, n'importe quelle expression de la vie nouvelle qui est en moi, que j'inventerai comme ça. Et donc, justement, le Seigneur les a données, ces formes d'expression. Ce sont des formes d'expression fondamentales dont il a lui-même institué, on peut employer là le verbe instituer, la forme, pour que la vie nouvelle qui m'a donnée par sa parole et son esprit se coule dans ce moule qu'il a pourvu lui-même. C'est pourquoi la Et puis on peut ajouter, me semble-t-il, par rapport à la notion d'expression, qu'avec l'idée de confession, on est très près de l'engagement. Celui qui confesse sa foi, justement, face à la réalité objective que résume le texte qu'il reprend à son compte, il s'engage. C'est là ce qui est propre à la confession. Or, la notion d'engagement est aussi, me semble-t-il, très importante en ce qui concerne la fonction sacramentelle. Nous allons, pas beaucoup de temps pour le faire, mais nous allons voir dans quelques instants le texte de la première épître de Pierre qui semble le plus proche d'une quasi-définition de ce qu'est le baptême et qui le définit comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La notion d'engagement, il est là explicitement donné et je crois qu'il est juste de voir dans la scène, la participation à la scène, un renouvellement de cet engagement. C'est pourquoi c'est un acte qui pèse aussi lourd, qui a une teneur éthique, méprisaient leurs frères démunis, se moquaient d'eux en quelque sorte, en ne partageant pas leur repas abondant et raffiné, en opérant en quelque sorte une division dans l'Église, sans doute selon la différence des ressources, qui démentait ce qu'ils prétendaient confesser en participant au repas du Seigneur. C'est en cela qu'ils commettaient un grave péché contre le corps du Seigneur. Leur comportement effectif était contradictoire de ce qu'énonçait leur confession. Et ils contredisaient leur engagement à ce propos. Donc, notion de confession, elle me semble centrale et nous donner quelque chose de spécifique pour la fonction sacramentelle. Et alors c'est ici que la comparaison avec le modèle réformé devient, à mon avis, particulièrement intéressante. Le problème de l'addition à la parole, une autre parole visible, mais pourquoi ajouter, ne se pose plus. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord du mouvement de la parole de Dieu qui va me toucher, qui va me porter la grâce, mais de ma réponse de confession, d'engagement, de reconnaissance, d'action de grâce. Ce que veut dire le mot Eucharistie, en plus. En réponse. Alors là, ça a une fonction tout à fait spécifique. Là, on ne peut pas confondre avec la prédication qui est dans cette autre affaire ou dans le 1 à 1, parce que c'est dans le mouvement de retour que cela se situe. Il y a un lieu propre et défini. C'est l'absence d'un lieu propre et défini qui crée tous les embarras, toutes les tensions et donc les ambiguïtés dans le modèle réformé. Là, maintenant, nous l'avons. Et puis, d'autre part, alors on peut remarquer qu'à les ambiguïtés balayées, on peut récupérer pratiquement tout ce que disent, en tout cas tout ce que disent de clair, les réformés. Car s'il y a confession, il y a énoncé de la parole de Dieu, proclamation de la parole de Dieu. Comme d'ailleurs le dit en Corinthiens 11, vous proclamez la mort du Seigneur. Remarquez d'ailleurs que le propre de cette prédication, c'est qu'elle vient de tous les membres de l'Église. Prédication ne leur est pas adressée à eux, vous proclamez, en participant par le repas du Seigneur. Mais enfin, tout le monde prêche à tout le monde, sous cette forme visible du signe du repas, la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est moyen de grâce. Il n'y a pas à le nier. Donc, ce que disent les réformés sur le rôle de cette parole visible, moyen de grâce, bon, moi je suis prêt à l'admettre, à l'accueillir à titre de deuxième moment, par ricochet, comme c'est une confession, d'accord, elle va jouer aussi un rôle de moyen de grâce, la parole continue son œuvre. Donc, ce n'est pas une position exclusive par rapport à ce qu'ont pu dire les réformateurs de la tendance réformée. Mais, nul besoin d'ambiguïté, et c'est mon dernier point à propos de la fonction sacramentelle. Je trouve qu'on repère comme un reflet fidèle de l'équilibre néo-testamentaire à propos du baptême et de la scène. L'énigme des sacrements dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils sont bien là, leur place n'est pas négligeable, et pourtant, nous l'avons dit rapidement, et pourtant qu'ils n'ont pas énormément de place. 10 fois, c'est la foi simplement, une fois, le baptême est mentionné. La Sainte Cène, quelques passages, mais des livres entiers qui n'en parlent pas du tout. Il y a une place, et une place qui est cependant nettement seconde. Or, cela me semble s'expliquer très bien si le baptême et la scène sont les expressions, confessions de la réponse humaine à la grâce de Dieu. Parce que il faut cette réponse, elle a sa place, mais, seconde, cette réponse de Dieu, cette réponse à Dieu ne peut pas occuper la même place que l'action de Dieu lui-même pour nous sauver par le moyen de sa parole et de son esprit. Toute priorité et tout l'accent doivent être sur lui et sur son œuvre, mais il suscite une réponse et donc en son lieu il faut lui faire une place, mais pas trop grande. Exactement ce qui revient au baptême et à la scène dans les textes du Nouveau Testament. Si vous prenez le modèle catholique, vous êtes obligé de voir le baptême et la scène là où ils ne sont pas du tout nommés, parce que vous gonflez énormément leur importance. Mais si vous suivez la logique réformée en éliminant les ambiguïtés, vous aboutissez à une place tellement réduite pour le baptême et la scène que finalement ça ne leur donne plus grand chose. C'est arrivé à certains moments de l'histoire des églises réformées. Par exemple, la scène n'était célébrée qu'une fois par an dans les églises. C'est arrivé aussi, en un sens. Et bien sûr, il y a certaines églises, comme les Quakers, qui ont complètement éliminé. Mais si on adopte le modèle que je crois typique de la part du christianisme professant de tendance baptiste, alors il me semble qu'on respecte les répartitions de masse d'insistance qui sont celles du Nouveau Testament même. Voilà donc en grande ligne la proposition que je vous fais. Alors, dans le temps qui va nous rester, je voudrais parler du baptême, mais je voudrais laisser la possibilité de quelques questions, débats maintenant, Monsieur Bruno, oui. Oui, je pense. À mon avis, on peut s'en servir. Effectivement, je suis prêt à le faire. Il y a, me semble-t-il, double signification. En ne baptisant pas lui-même, comme Jean le précise, mais en faisant simplement baptiser par ses disciples, Jésus fait bien la différence entre le baptême de Jean, qu'il pratique à ce moment-là, ou qu'il fait pratiquer par ses disciples à ce moment-là. C'est encore le baptême de Jean que ses disciples administrent, selon Jean 3. Et puis le baptême chrétien. Et puis d'autre part, et c'est là la pensée que vous nous proposez, et avec laquelle je suis en plein accord, Jésus fait en sorte qu'il n'y ait pas de brouillage. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais lui il vous baptisera d'esprit. Alors si Jésus s'était mis à baptiser d'eau, ça aurait fait comme une sorte de cafouillage, on n'aurait plus très bien compris, donc Jésus évite cela, me semble-t-il. C'est très intéressant d'avoir cette mention parce qu'elle est mise en relief en quelque sorte par la reprise dans Jean 3. C'est très intéressant, ça nous montre comment fonctionne aussi l'infaillibilité biblique, la pure vérité de l'Écriture. Ils apprirent que Jean baptisait davantage, que Jésus baptisait plus que Jean. C'est une façon de parler qui est tout à fait légitime. Parce que c'était le groupe de Jésus, sous l'autorité de Jésus, qui le faisait. Donc, il est permis, selon les lois du langage humain, de dire Jésus baptisait. Mais Jean précise tout de suite, c'est pas Jésus lui-même, ses disciples. Et donc, il met en relief cette abstention volontaire qui a été celle de Jésus par rapport à l'administration du baptême d'eau. Même pas ce point. Je regarde parce que je vous avoue simplement que Oui, non, je dis chapitre 3, mais c'est le chapitre 4. Tout est au chapitre 4, hein, c'est le début du chapitre 4. Moi, j'avais à l'esprit 4.1. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Et puis, c'est le verset 2. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Pardon, tombait 2. Ah, voilà. D'accord. Voilà, merci bien, oui, c'est bien ça. Très bien. Donc, c'est d'autant mis en relief et c'est très intéressant. D'autres interventions? Oui. Oui, je pense, je ne sais pas si nous avons le temps. Attendez, je regarde, nous avons commencé à la demi, nous avons encore un quart d'heure, oui, nous n'aurons guère le temps de faire beaucoup. Donc, je commande tout de suite 1 Pierre 3:21. La quasi-définition du baptême, en recommandant Dunn sur ce sujet, James Dunn, que j'ai déjà donc recommandé deux fois. Et puis en vous signalant aussi que j'ai écrit tout un chapitre d'un livre sur ce verset dans le volume publié par la faculté de Celsis, en hommage à M. Benetro, Esprit et vie. C'est un recueil d'études diverses par les professeurs et les autres théologiens. Et j'ai choisi d'étudier ce verset pour ma contribution à cet ouvrage. Donc je développe pas mal, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Donc, dans ce chapitre, Pierre exhorte à la fermeté, au courage et à l'espérance face à la persécution. Il rappelle l'opposition que les témoins fidèles du Christ et le Christ lui-même ont dû subir. Et il évoque à ce propos l'exemple du déluge. Déjà à l'époque du déluge, le gros de la population ricanait, refusait de croire aux avertissements de Dieu, et le témoin fidèle, Noé, était en butte aux railleries, à une sorte de persécution. Et la situation du déluge, Jésus déjà l'avait prise comme emblématique des conditions des temps de la fin qui commencent dès le Nouveau Testament. Cette situation d'avant le déluge est prise comme un type de la situation où se trouvent les chrétiens, les correspondants, destinataires de la lettre de Pierre. Et avec cet usage typologique du déluge, Pierre dit que les eaux de la mer traversées par l'arche, de telle sorte qu'il y a eu 8 âmes, Noé, Madame Noé, puis ses fils et leurs femmes. Donc il y a eu 8 âmes qui ont été sauvées au travers de l'eau. Ce qui est un type de l'antitype qui maintenant vous sauve, le baptême, dit-il. Vous voyez comment il fait ressortir les correspondances typologiques. Mais le baptême, en tant qu'il sauve, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'enlèvement des souillures du corps, de la chair littéralement, mais, alors je traduis l'engagement, c'est éperotema, d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Là, il définit ce qu'est le baptême, en tant que le baptême est salutaire. Ce n'est pas l'acte extérieur, le signe en tant qu'il est opéré. L'acte extérieur, il purifie des souillures de la chair, du corps. C'est un bain. Même même si le baptisé est assez propre, c'est toujours quand même un bain qui enlève tout ce qui pourrait rester de micro-saleté. Au plan de l'opération effective du signe, quant au rite lui-même, c'est la purification des souvenirs du corps, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est ce dont il est le véhicule, l'expression, la confession, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Bonne conscience parce qu'elle a déjà été touchée par la grâce. Il ne pourrait pas y avoir bonne conscience si c'était quelqu'un qui n'était pas encore converti, qui ne s'était pas tourné déjà vers Dieu qui recevait le baptême. Il a été touché par la grâce, il y a donc bonne conscience, mais le baptême est l'expression de son engagement envers Dieu. Alors ce mot, eperotema, que je propose de traduire engagement, est l'objet de débat. Et quelqu'un comme Dunn préfère ne pas s'engager dans ce débat, il garde le mot grec et puis c'est tout. Ce qu'il fait remarquer seulement, avec beaucoup d'à-propos, c'est que de toute façon, quelle que soit la traduction qu'on adopte, c'est envers Dieu. Il montre comment ce verset, de toute façon, s'oppose au modèle catholique et au modèle réformé. Pour le modèle catholique et le modèle réformé, c'est toujours le véhicule, d'une manière ou d'une autre, de la grâce de Dieu envers l'homme. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, c'est le véhicule de quelque chose qui vient de l'homme envers Dieu. Ça correspond à ce que j'ai suggéré de l'emplacement pour le baptême et la scène. Ça donne le fait ressortir. Mais en ce qui concerne le mot lui-même, à mon avis, on ne doit pas hésiter. Le terme d'engagement est le meilleur correspondant que l'on ait en français pour ce terme. C'est ce qu'avait bien compris Luther dans sa traduction. Il employait le mot Bund, engagement d'alliance. Dans sa traduction, c'est ce qui est très bien défendu par le père Boimard, bibliste catholique Boimard, a une bonne exégèse ici, je m'appuie pas mal sur lui dans mon chapitre, et pas mal d'autres qui l'ont admis, c'est je pense le sens qu'il faut reconnaître. Pourquoi certains hésitent-ils? À cause d'une mauvaise méthode du point de vue linguistique. Le mot est attesté dans les papyries, c'est un mot du langage commercial et juridique qui a le sens d'engagement. Mais l'étymologie, avec le verbe « erotao », évoque l'idée d'interrogation, et donc de demande, une demande, une question qu'on pose. Hein. Et à cause de cette étymologie, parce qu'il y a bien des gens qui sont excessivement soucieux d'étymologie, lorsqu'ils considèrent les termes bibliques, certains ont voulu voir ici une demande. Et c'est en particulier le cas de Barthes, Marcus et Karl. Une demande de bonne conscience. À partir de cette étymologie, mais qui ne jouerait même pas très bien, parce que ce n'est pas une demande d'avoir quelque chose, c'est poser une question plutôt. Mais de toute façon, c'est de la mauvaise méthode que de sur l'étymologie, ce qu'il faut considérer c'est l'usage. Or l'usage est bien attesté au 1er siècle au sens de l'engagement. Et donc je ne pense pas que nous devions hésiter. Alors à partir du moment où cela est réglé, nous avons un texte très très consistant dans le sens du modèle que je vous ai proposé. Alors j'essaye de reprendre un peu. C'est simplement un stade d'après qu'il vous faut atteindre. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez encore un ou deux pas à faire. Vous avez bien compris, c'est bien ça, le déluge et la délivrance de Noé à travers les eaux du déluge qui figurent le jugement, la mort, ce déluge est une image du salut qui est réalisé par le Christ que nous recevons. Et Pierre dit, c'est une image du baptême qui aujourd'hui vous sauve. Alors c'est l'unique passage dans le Nouveau Testament où le baptême est dit sauvé, et donne le souligne en disant, c'est justement parce que c'est tellement exceptionnel que Pierre ajoute tout de suite son explication. Il a employé la formule parce qu'il parle du déluge et qu'il veut faire correspondre l'eau et l'eau, le déluge et le baptême. Mais il explique tout de suite que s'il parle du baptême comme sauvant, ce n'est pas le rite. Le bain qui nettoie le corps, c'est ça le rite. Ce n'est pas le rite qui est le baptême qui sauve. Ce qui sauve dans le baptême, c'est l'engagement de la bonne conscience, qui est équivalent à la foi qui se confesse dans le baptême. Disons que l'expression inattendue, et justement c'est grâce à elle que Pierre est amené à donner une explication, et c'est ça ce qui nous est tellement précieux. L'expression inattendue, c'est le baptême vous sauve, parce que justement nulle part ailleurs vous ne le trouvez. Nulle part ailleurs, c'est la foi qui sauve. Et lorsque le baptême est mentionné à proximité, il y a toujours le sens d'expression de la foi. Alors là on est surpris, mais alors tout de suite il explique, du coup, ayant créé cette surprise, il explique que le baptême sauve non pas en tant que rite, mais en tant que s'exprime l'engagement de la bonne conscience par ce baptême. Et je signale alors en supplément que cette mention du nombre 8 est très, très intéressante. Qu'il voit certainement dans le groupe de 8 qui sont dans l'arche une figure de l'Église. Il y a une spéculation qu'on voit ici et aussi dans la deuxième de Pierre, au chapitre 2, où il parle du 8e prédicateur. Il y a une spéculation sur le chiffre 8. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la Nouvelle Alliance, le chiffre de la résurrection, c'est le premier jour, donc le 8e. Après les 7 jours de la semaine, c'est le 8e jour. 8, c'est le chiffre de la Nouvelle Alliance, Nouvelle Création, donc de l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, humanité de la Nouvelle Création. Et en plus, je vous signale, le nom Jésus en grec, Yesus, a pour valeur numérique 888. Vous savez qu'il y a des spéculations à propos de 666 de l'Apocalypse, on calcule, etc. On cherche selon la valeur des lettres grecques. Et si vous calculez la valeur des lettres grecques du nom de Jésus, Yesus, fait 888. Quand même intéressant, étant donné cet intérêt pour le chiffre 8. Voilà pour ce texte, qui est un texte tout à fait fondamental sur le baptême. Je me contente de deux autres mentions dans les 3 minutes qui restent, parce que je voudrais que demain matin nous parlions quand même de la Sainte-Seine. C'est un sujet très, 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 très important, et dans les dialogues d'aujourd'hui. Alors je me contente de deux autres mentions de plus à propos du baptême, concernant tout spécialement les épîtres de Paul. Le baptême correspond-il à la circoncision? La théologie réformée pose une équivalence stricte, au point de dire que le baptême c'est simplement la circoncision continuée. D'où l'usage du texte Romains 4 sur la circoncision comme sceau. Que devons-nous dire à ce propos? Pouvons-nous admettre cette continuité ou devons-nous la contester? Ceux qui affirment la continuité se basent essentiellement sur le texte de Colossiens 2, où l'apôtre Paul dit que le Christ est le chef de toute autorité et domination, qu'en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, dans le dépouillement du corps de la chair, dans la circoncision du Christ, ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel, mais ça, je pense qu'il faut le rapporter au Christ, le Christ en qui vous êtes aussi ressuscité par la foi de l'énergie de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il me semble que le moins qu'on puisse dire, c'est que le lien n'est pas établi d'une manière formelle entre circoncision et baptême. Les deux sont mentionnés dans ces mêmes phrases, mais il n'est pas dit que le baptême prend la place de la circoncision et la circoncision de la Nouvelle Alliance. Et par rapport à cette dernière idée, il me semble qu'il y a une objection très forte qu'on peut élever. La circoncision du Christ, c'est une question, n'est pas faite de main d'homme. Or, de nouveau, le baptême est fait de main d'homme. Donc, attribuer l'expression circoncision du Christ au rite baptismal ne peut pas jouer. Donc, le texte ne fait pas une identification stricte, et il y a une objection forte contre la pensée d'une continuité simple. Autre objection, partout où il est question de la circoncision, c'est la circoncision du cœur, ailleurs, partout ailleurs que dans ce passage, qui est placée en correspondance avec la circoncision de la chair, c'est pas le baptême. Comme Romains 2, par exemple, celui qui est circoncis, non selon la lettre, mais selon l'esprit, juge qu'il est de manière intérieure. C'est de cette façon que l'apôtre Paul raisonne constamment, et dans la grande dispute avec les judaïsants à propos de la circoncision, s'il avait cru que le baptême remplaçait purement et simplement la circoncision, il avait un argument pour trouver. Les judaïsants disaient, ceux qui se convertissent à Jésus-Christ, dans l'origine païenne, doivent être circoncis pour obéir à la loi de Moïse. Si Paul avait pensé que la circoncision était simplement remplacée par le baptême, il n'aurait eu qu'à dire ça. Maintenant, c'est le baptême. Il ne le dit nulle part, jamais, quand il discute de ce point-là. Alors, il me semble donc abusif de tracer une ligne continue, en quelque sorte, entre la circoncision et le baptême. Maintenant, indirectement, il y a un certain rapport. La circoncision de la chair était un type qui visait la circoncision du cœur, qui est la régénération, la nouvelle naissance. Or, le baptême est la confession, l'expression confession de cette nouvelle naissance. Donc, dans ce sens, il y a un rapport, mais ce n'est pas le rapport de continuité. Voilà, en gros, ce que je crois pouvoir répondre à mes amis de théologie réformée à ce propos. Et puis, l'autre élément que je mets en relief, c'est l'accent sur l'ensevelissement. Il est dans ce passage de Colossiens 2, il est aussi dans Romains 6. À mon avis, quand on lit ces textes de manière précise, là, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, puisque l'heure arrive, il y a 3 minutes d'avance de cette horloge, mais c'est maintenant l'heure. Donc, à mon avis, quand on lit les textes, on doit dire que le baptême, ce n'est pas le moment de la mort avec le Christ, ni de la résurrection avec le Christ d'ailleurs non plus, c'est le moment précis de l'ensevelissement. C'est l'accent sur l'ensevelissement. Bien sûr, l'ensevelissement présuppose la mort, c'est pour ça que Paul parle aussi dans Romains 6 de la mort. Mais ce qui est propre au baptême, c'est l'ensevelissement. Et ça joue impeccablement. Quand un ensevelissement a-t-il lieu? Quand quelqu'un est mort, et l'ensevelissement, c'est la cérémonie publique qui donne, en quelque sorte, un statut social à cette mort qui est arrivée. Qu'est-ce que le baptême? C'est la cérémonie publique qui donne un statut social à la mort du vieil homme, de l'ancien personnage non-chrétien. Le baptême, c'est exactement ce qui correspond à l'ensevelissement. Et je crois que ce n'est pas par hasard que Paul met l'accent sur ce terme dans Romains 6 et Colossiens 2. Voilà donc deux mentions, ce qui ne sont pas toujours explicites dans ce que vous pouvez lire et que j'avais souci de vous apporter. Voilà, c'est l'heure. Nous
sommes respectueux des horaires.